Parce que l'Europe n'arrive plus à convaincre, et bien voilà un livre qui ambitionne de la rendre à la fois plus proche, moins abstraite, plus forte face aux blocs que sont la Chine, la Russie, l'Amérique, versatile. L'Europe, changer ou périr, c'est le titre de ce livre paru aux éditions Talendier, signé Nicole Niesoto. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions européennes, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. D'ailleurs, la préface est signée Jacques Delors. On va partir de l'actualité ukrainienne, hein, ce dossier qui concerne l'Europe, mais qui est directement traité entre Russes et Américains. L'Europe a-t-elle réellement perdu la main pour influer sur le cours du monde ?
Oui, la réponse est oui, pour l'instant en tout cas. Elle l'a perdue depuis très longtemps, moi je dirais, depuis la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui en tout cas, quand on regarde le dossier ukrainien, c'est vrai que l'Europe est absente. On parle de son sort, de son avenir, de sa sécurité, mais on a l'impression d'être revenu au mauvais vieux temps du condominium américano-soviétique.
Cela dit, il y a toujours la parole française en ce moment. Emmanuel Macron qui disait cette semaine que face à la menace que pourrait représenter la Russie pour l'Europe, lui, il souhaite ce qu'il appelle un réarmement stratégique de l'Europe tout en appelant la Russie au dialogue. À quoi ressemblerait ce pacte de stabilité et de confiance avec la Russie ?
Alors, je dirais, Dieu merci que l'on a une présidence française pour gérer la crise ukrainienne. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer, chaque fois qu'on a une présidence française, c'est pas souvent, puisque
tous les
dans
13
la grande
ans.
Europe, c'est tous les 13 ans, mais la dernière fois, c'était en 2008, Nicolas Sarkozy a eu à gérer la crise économique et la guerre entre la Russie et la Géorgie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en présidence de l'Union et il a à gérer la crise économique du Covid et la crise ukrainienne. Mais cela dit, c'est très bien que ce soit une présidence française, c'est-à-dire un pays qui a, et ça tout le monde reconnaît, une vraie tradition diplomatique et peut-être militaire. Alors, ce qu'il faut voir sur l'Ukraine, c'est que cette idée d'une architecture de sécurité, cette nouvelle ordre européen que les Américains et les Russes sont peut-être en train de négocier, en fait, c'est une idée française. Emmanuel Macron l'avait proposé en 2019 quand il présidait le G7. Il avait parlé à l'époque d'une architecture de sécurité et de confiance. Mmh. Il s'était fait renvoyer dans ses buts par tous les Européens qui avaient trouvait qu'à l'époque, c'était un gros mot d'oser penser qu'on pouvait négocier avec la Russie. Il l'a répété en franco-allemand, c'était une proposition commune franco-allemande il n'y a pas si longtemps, en juin 21, au Conseil européen de juin dernier, et les Français et les Allemands ont reçu un veto de la Pologne, des Pays-Baltes, de la Suède et des Pays-Bas. Autrement dit, l'idée qui est une idée toute simple, qui est le béaba de la géopolitique, c'est-à-dire qu'on a la politique de sa géographie, autrement dit qu'il faut parler avec un pays, la Russie, qui est sur notre continent, qui a 3 heures de vol de Paris. Cette idée toute simple, Emmanuel Macron va essayer maintenant de en faire un consensus européen. Ce qui n'est pas le cas, je répète, puisqu'il y a 9 mois, on s'est rendu compte qu'en particulier les pays d'Europe centrale et orientale ne voulaient pas parler avec un pays qui les a occupés pendant 70 ans et qu'ils ne considèrent que comme un agresseur possible.
Mais alors justement, voilà, entre ces deux puissances en ce moment, qui discutent de notre sécurité, d'un côté les États-Unis, de l'autre la Russie, où doit se situer l'Europe ? Est-ce qu'elle doit rester l'alliée des États-Unis ? On l'est depuis la Première Guerre mondiale. Ou est-ce qu'on doit être capable de discuter aussi avec la Russie ? Quels doivent être, j'ai envie de dire, nos choix stratégiques ?
Alors, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que cette absence de l'Europe dans ce débat bilatéral américano-russe, elle n'est un problème pratiquement que vu de France. Nous, Français, on s'en étonne, parfois on s'en indigne, on trouve que ce n'est pas normal. Mais c'est pas le cas pour la plupart de nos partenaires européens, qui, la plupart, sont soulagés et même contents de voir que l'Amérique continue de remplir sa tâche de leader du bloc atlantique, de défense des intérêts européens. Ça, c'est une remarque qu'il faut faire, parce que les Européens n'ont pas l'impression d'être exclus ou d'être marginalisés dans l'histoire. Ils attendent de l'Amérique qu'elle se conduise en leader et qu'elle les défende face à une Russie qui est effectivement de plus en plus et systématiquement depuis juillet dernier dans des positions, dans des postures d'agression. Alors c'est difficile pour la présidence française de proposer la bonne place des Européens dans un contexte où une partie des Européens préfère ne pas avoir de place, justement pour ne pas gêner la négociation.
Mais est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne, que l'Europe, elle reste très atlantiste malgré tout, elle reste très attachée à l'OTAN et donc aux États-Unis ?
Oui, bien sûr. Non, bien sûr, ça c'est la culture stratégique commune aujourd'hui des Européens, c'est la même qu'en 1954, quand on a ouvert l'OTAN à l'Allemagne et à l'Italie, les deux vaincus de la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement la même culture, c'est-à-dire pour notre sécurité, la meilleure formule, c'est la formule atlantique, c'est-à-dire la délégation aux États-Unis de la défense du territoire et des populations européennes.
Oui, mais on a l'Allemagne qui est très conciliante, avec la Russie, qui y fait très attention.
Mais on ne peut pas dire que l'Allemagne soit conciliante avec la Russie. L'Allemagne est un allié, presque l'allié le plus atlantique de l'ensemble des partenaires européens. Ce que ne veut pas l'Allemagne, c'est d'être obligée de choisir entre les États-Unis et autre chose, et la France, par exemple. Mais l'Allemagne a une politique de à l'égard de la Russie qui est celle de tous les pays aujourd'hui dans la mondialisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la guerre froide. C'est-à-dire, l'ennemi n'est plus l'ennemi. L'ennemi est à la fois notre partenaire essentiel sur le plan économique et là, en l'occurrence, sur le plan énergétique. Mais c'est la même chose vis-à-vis de la Chine. La Chine est considérée comme une menace pour le 21e siècle, mais c'est en même temps elle qui dirige la mondialisation.
On va en parler dans un instant de la Chine.
Mais Nicole, on ne peut pas dire donc que les pays sont conciliants. Les pays, tous les pays, y compris la Russie, sont pris dans cette contradiction de la mondialisation où un adversaire est en même temps un partenaire.
Mais alors, pour sa défense, l'Europe doit donc composer désormais avec la versatilité de la Maison-Blanche. Comment est-ce que l'Europe, qui dépend des Américains, qui dépend de l'OTAN, peut-elle se réapproprier une puissance stratégique ?
Oui, alors, vous avez raison. On est dans une situation extrêmement tendue, où les Européens ont commencé à avoir des inquiétudes sur la fiabilité de l'Amérique avec Donald Trump. Ils ne l'ont plus avec Joe Biden, mais quand même, ils ont ce souvenir que Trump pouvait aller jusqu'à quitter l'OTAN. Et en même temps, donc ils ont compris qu'il fallait que l'Europe s'assume plus sur le plan de la sécurité. Mais le vrai, la difficulté, c'est donc le calendrier. C'est-à-dire, le pire des choses, c'est d'éviter que l'Europe soit nue. C'est-à-dire que l'OTAN soit devenue obsolète ou sans Américains et que la défense européenne n'ait pas encore été construite. Et c'est cette transition-là qu'il faut manager de façon extrêmement prudente. Moi, je crois que aujourd'hui, les Européens n'ont pas l'alternative. La défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Et rien que l'OTAN, même la France reconnaît que pour la défense qu'on appelle l'article 5, c'est l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qui est en première ligne. Mais il faut penser la transition lente, négocier avec les Américains. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. On ne fera pas la défense de l'Europe contre l'Amérique, on le fera avec l'Amérique. Négocier avec les Américains une espèce de grande transition qui les amènerait peut-être à reprendre des marges de manœuvre dont ils ont besoin pour s'occuper de la Chine, et à nous laisser assumer davantage la responsabilité de notre défense.
Ça prendra peut-être 2 ou 3. Ouais, voilà, sur 10 ans, 20 ans, non ?
20 ans au moins, parce que d'une part, ça coûterait très cher. Aujourd'hui, les Américains assurent à peu près 70% des dépenses de l'OTAN. Et donc, il y a deux. Soit on considère que l'OTAN crée, tel que l'on connaît depuis 49 et surtout depuis 54, depuis que l'Allemagne est rentrée, que l'OTAN est une organisation internelle et qu'en 2054, c'est encore l'OTAN qui assurera la défense de l'Europe, ce qui, moi, me paraît absolument impensable, parce que parce que l'histoire va beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Soit, au contraire, on considère qu'il faut anticiper cet avenir où l'OTAN sera une coquille vide, et il faut construire, mais encore une fois, avec les États-Unis, pas contre eux, les moyens d'un transfert petit à petit de la défense de l'Europe, de l'Alliance, vers l'Union européenne.
Alors avant d'en arriver là, sur cette situation qui est face à nous en ce moment, question très directe, très franche, est-ce que la guerre menace vraiment entre la Russie et les forces de l'OTAN ?
Moi, je ne suis pas devin et je ne sais surtout pas ce qu'il y a dans la tête de Poutine. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que personne ne sait. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de guerre entre l'OTAN et la Russie. Aujourd'hui, l'incertitude, c'est est-ce que Vladimir Poutine va faire une attaque militaire, terrestre, sur l'Ukraine. Et donc après, il y a tout le débat sur les réactions des Occidentaux, des Américains. Je rappelle que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, donc il n'y a juridiquement pas de traité de défense avec l'Ukraine, et donc c'est une, si on devait défendre l'Ukraine, ce serait une décision politique majeure, mais en aucun cas une obligation juridique par traité. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on appelle une attaque, déjà? On a vu que l'Ukraine avait été soumise à une attaque informatique sévère il y a à peine 10 jours, je crois.
C'est ça.
Alors, évidemment, on peut pas l'attribuer nommément à la Russie, mais enfin, on voit pas pourquoi ce serait un autre pays qui avait attaqué.
Mais Joe Biden a dit, si jamais c'est une attaque, une menace mineure, on se déplacera peut-être pas. Donc, effectivement, il y a la puissance de l'attaque qui est importante.
Oui, alors là, je crois que Joe Biden aurait mieux fait de se taire, enfin en tout cas de tôt, comme disait Chirac, aurait mieux fait de tourner sa langue 10 fois dans sa bouche, parce que dire ça, c'est presque un blanc-seing donné à la Russie pour faire une attaque mineure, justement. D'ailleurs, les Ukrainiens ont protesté. Moi, je pense qu'on est dans un système d'engrenage absolument terrifiant et très très dangereux. L'engrenage, c'est que de deux côtés, en tout cas du côté américain et du côté européen, on risque d'être amené à prendre des décisions qu'on n'a absolument pas envie de prendre.
C'est-à-dire
par exemple, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Personne ne pense que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN. Absolument personne. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu un débat sur l'élargissement de l'OTAN, la première fois, je crois que c'était en 97, la France et l'Allemagne ont plaidé au sein de l'OTAN pour qu'on n'ouvre pas la porte à l'Ukraine. Et on a gagné, et donc la formule de l'OTAN, c'est un jour. Un jour, elle rentrera, mais pas de date précise.
Ce qui convient à tout le monde pour l'instant, remarquez.
Absolument. Mais aujourd'hui, personne ne souhaite, à part peut-être les Polonais qui ont envie d'avoir un rempart entre eux et les Russes, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus le dire maintenant que Poutine en a fait une exigence. Autrement dit, on aurait pu dire il y a 2 ans, bon, l'Ukraine sera un des partenaires majeurs de l'OTAN, mais l'organisation en tant que telle a le droit de décider qui elle prend ou pas. C'est vrai qu'un pays démocratique a le droit de choisir ses alliances, mais l'alliance a le droit de choisir ses alliés. Donc si on l'avait dit il y a 2 ans, c'était parfait. Le dire maintenant, alors que c'est une exigence de Poutine qui veut le voir écrire noir sur blanc, ça pourrait passer comme une espèce de soumission à Poutine. Et c'est ça l'engrenage. C'est-à-dire une politique qu'on ne veut pas faire, devient pratiquement impossible à dire. Moi, je crois qu'il y a une solution qui est assez simple, mais moi je suis une irresponsable universitaire, donc dire des choses, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, ma formule pour l'Ukraine, c'est ni OTAN, ni agression. Autrement dit, encore une fois, la géopolitique, ça existe. La géographie est une contrainte stratégique. Et donc, on ne peut pas nier que l'Ukraine a une frontière avec la Russie. On peut discuter de tout ce qu'on veut sur Poutine, on peut pas discuter de la géographie, la Russie est là. Et donc, la formule que moi je propose, et qui avait été utilisée après la guerre froide, au début de la guerre froide pour la Finlande, ce mot de finlandisation, qui n'est pas un gros mot, qui n'est pas une injure, la Finlande a été une des plus belles réussites démocratiques et économiques depuis le début de la guerre froide, même si aujourd'hui, certains Finlandais ont tellement peur qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN. Mais en tout cas, cette idée de dire l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN parce qu'on a une contrainte géographique, parce que les Russes ne veulent pas voir un soldat américain à leurs frontières, ce qui me paraît à peu près logique, ça, cette solution, ni OTAN ni agression, je pense que c'est la solution pour l'Ukraine. Mais
Nicole Niesoto,
c'est difficile.
On va changer de registre. Je rappelle le titre de votre livre, L'Europe, changer ou périr. Il faut donc trouver une vocation à cette Europe qui se cherche. Ce ne sera pas dans les nouvelles technologies, la 5G, l'intelligence artificielle, parce que la place est déjà prise. Vous dites que ce sera dans les politiques sociales, dans la réduction des inégalités en Europe. Qui est prêt à entendre ce discours en Europe?
Ça dépend ce qu'on appelle les politiques sociales. La construction européenne a été faite en excluant les responsabilités sociales parce que les États voulaient garder le social dans leurs instruments de souveraineté, parce que c'est en fonction de leur politique sociale qu'ils sont élus ou pas, très souvent dans nos démocraties. Donc c'est vrai que l'Europe aujourd'hui n'a très peu de compétences en matière sociale, parce que les États ne le souhaitent pas. Donc ma réponse simple à votre question, c'est personne. Personne ne souhaite aujourd'hui déléguer des compétences des États sur le social à l'Union européenne. Mais ça dépend ce qu'on appelle social, encore une fois. Déjà, qu'il le veuille ou non, l'Union européenne a énormément pris des décisions qui ont des conséquences en matière sociale, simplement parce qu'elle voulait améliorer le marché. La recherche d'un marché unique optimal entraîne forcément des mesures sociales, par exemple sur le temps de travail, par exemple sur la sécurité au travail, par exemple sur les conditions chimiques de certaines catégories de travail, par exemple sur la liberté de circulation des travailleurs,
En quoi un nouveau modèle social que vous êtes en train de dessiner peut faire la différence, peut renforcer l'Europe et donc l'Union européenne?
Parce que aujourd'hui, dans la mondialisation, le paradoxe de la mondialisation, c'est que plus les États s'enrichissent, plus les inégalités sociales augmentent dans nos pays et dans tous les pays riches. Et c'est vraiment le paradoxe de la mondialisation. Elle enrichit le monde, mais dans les pays pauvres, elle enrichit tout le monde, y compris les pauvres. Et dans les pays déjà riches, elle enrichit une toute petite partie de la société et elle paupérise, ou en tout cas, elle donne un sentiment de paupérisation aux classes moyennes. Et donc, la formule initiale qui était de dire l'Europe fait de la croissance, les États redistribuent les effets de la croissance, elle ne peut plus marcher aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que plus il y a de croissance, plus il y a augmentation des inégalités sociales dans nos pays. C'est pour ça que je dis l'Europe doit accompagner les États dans la réduction des inégalités.
Défendre l'injustice sociale, c'est comme défendre les valeurs de la démocratie. C'est beau, c'est très louable, mais face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis, ça fait gagner quel type de bataille ?
Je crois que là, pour le coup, on n'est plus dans le stratégique. Moi, mon idée, c'est ça fait gagner la démocratie. Faire en sorte que l'Union européenne accompagne les États, c'est-à-dire à côté des politiques sociales des États, le chômage, l'assurance santé, la retraite, tout ce que vous voulez, qui ne change pas. Il faut qu'une partie du budget européen soit utilisée pour accompagner ces politiques, faire la même chose en plus. Pour moi, l'Europe sociale, c'est pas une Europe à la place des États, c'est une Europe en plus. Que les citoyens voient que quand ils perdent leur emploi ou quand ils veulent une formation professionnelle, l'Europe leur donne un pécule comme Erasmus pour les étudiants, si vous voulez. Il faudrait un Erasmus de la formation professionnelle. Et ça renforce la démocratie profondément. Ça renforce l'adhésion à l'Europe, ça renforce l'adhésion à la démocratie participative et représentative. Et si vous le voulez, alors ça devient une arme très forte contre les modèles autoritaires. Que les populistes proposent.
Mais si l'Europe ne fait plus rêver les citoyens, vous écrivez effectivement que c'est à cause de ce modèle libéral autoritaire qui s'impose en Europe. Alors est-ce que c'en est fini pour autant du modèle libéral à l'ancienne, à l'européenne ? Eh bien je renvoie à votre livre, Nicole Niesoto, donc « L'Europe, changer ou périr », préface de Jacques Delors. Et ce livre est sorti chez Talendier. Merci beaucoup Nicole Niesoto d'être venue en parler ce matin sur France Inter.